9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serin, vous salue mes amis, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 6 décembre. Ah, vendredi jour tant attendu par les musulmans, mais par contre attention, hein, plus que quelques heures pour faire, hein, pour faire quoi? Non, pas vos achats pour Noël, il vous reste encore un peu de temps, non, pour faire vos dernières bêtises avant de courir direction la mosquée pour vous faire pardonner. Ce truc-là, mon cher Philippe, m'a toujours fasciné. Combien de fois, hein, j'ai défendu des types au pénal pour des dossiers parfois cradingues qui m'ont dit quand j'ai fixé un rendez-vous le vendredi après-midi, ah non maître, c'est l'heure d'aller prier, je pourrais pas être là à cette heure-là. Ah, carrément, tu pries, toi. Manifestement, la délinquance n'est pas incompatible avec la religion et ils sont là avec des hamdoulillah, bismillah, inshallah. Mais arrête, arrête, tu fais mal à ma religion. Tiens, vendredi dernier, j'ai reçu 4 personnes qui sont venues me voir en djellaba. C'était l'agence touriste. Hein. Alors en fait, ils ont dû faire mosquée, cabinet de maître Serran. J'ouvre la porte et là, 4 types en djellaba. Alors pas les djellaba des types, c'est d'Arabie Saoudite, les belles djellaba, griffées Dior ou Armani, d'un blanc plus blanc que blanc. Non, des djellaba avec des taches partout, des taches dégueulasses, comme dirait Coluche, des taches marron derrière et jaune devant. Oh frère, mais... Non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de m'agresser. Donc j'en étais. Ah ouais, mais là, frère, c'est pas possible. Il y a un voisin à ce moment-là qui monte les escaliers et je me dis, le voisin, il va penser quoi de moi? 4 barbus et il entend aussi, mais tout fort, salam alaikum. Oh, le GIGN va débarquer, les gars, mais vous pouvez me le dire discrètement. Vous voyez bien qu'il y a des voisins. Allez, vite, vite, vite. Rentrez, rentrez. Donc il rentre, je les reçois, on discute et puis je vois que l'un des 4 regarde derrière lui. J'ai une bibliothèque et sur cette bibliothèque, il y a des bouteilles de vin. Alors je lui dis, pour essayer de dégayer les choses. Je lui dis, non, mais moi, je bois pas de vin, mais que de la vodka. Bon, je vois que ça rigole pas. Et puis, je lui dis, non, mais j'aime bien les bouteilles de vin, juste avec les étiquettes. Mais je lui dis, en vérité, je bois pas. J'ai certaines bouteilles qui viennent d'Algérie, donc c'est vraiment purement esthétique. J'ai senti quand même que dans ma déco, j'avais peut-être commis un faux pas. Et le type, je le sens un peu mal à l'aise, donc je suis prudent. Et puis, il me dit, ah, mais maître, si vous buvez pas, moi, je bois, vous pouvez me les donner. Et les autres compères, ils rigolent. Et ils me disent, mais nous aussi on boit maître. Oh, j'étais en train de me dire, Nal Shaitan. Il y a 20 minutes, les types, ils me disent qu'ils sont à la mosquée et qui, a priori, je me dis, boivent pas de l'alcool. Et là, ils sont en train de me dire, on boit de l'alcool. Alors, si l'un d'entre vous a une explication à cette contradiction suprême qu'il n'hésite pas à m'appeler 01 53 48 3000, accessoirement, vous pouvez aussi poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui ne boit que de l'eau, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Et du café, maître Serran.
Et du café et du chocolat aussi.
Non, ça c'est vous qui
prenez. Bah, ça c'est
chocolat.
Moi, oui, oui.
Bon, maître Serran, l'histoire que vous venez de nous raconter est vraie. Hein.
C'est, ah, oui, attention, oui, non, attention. Non, mais c'est ça qui est assez... Bon, en même temps, c'est la richesse de cette activité. C'est-à-dire, vous voyez un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que voir 4 types qui, a priori, vendredi, me disent qu'ils débarquent de la mosquée et puis on me laisse entendre que manifestement mes petites bouteilles que je garde pour moi, mais que je... Voilà, moi je bois pas, je les ouvre.
Il arrive que certains de vos clients, pour vous récompenser de vos talents, maître Serran, vous offrent une bouteille de vin.
Je trouve ça franchement très sympa. Encore une fois, j'aime bien les bouteilles et les étiquettes. Et puis bon, là, j'ai vu que les yeux des intéressés étaient en train de pétiller. Donc j'ai, encore une fois, j'ai du mal à
dire,
comprendre.
Ça pétillait,
hein, c'est le cas de le dire, mais j'ai du mal à comprendre. Mais bon, en même temps, ils assument et c'est comme ça.
Bon, il n'y a pas que chez vous que ça se passe. Hein. Il y a beaucoup de pays musulmans où,
ah ouais, complètement,
où personne n'est censé boire d'alcool et où au bar, ça y va.
Moi, ça me dérange. Comme chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, si ça, c'est pas de l'hypocrisie, qu'on m'explique ce que ça peut être. Quoi. C'est tout.
On posera la question à l'imam tout à l'heure. Bien sûr, vous poserez vos questions en direct à Maître Serran au 01 53 48 3000. Puisque les fêtes de fin d'année approchent, Maître Serran, vous avez décidé de nous parler d'un sujet d'actualité, la procédure de surendettement. Alors, comment est-ce qu'on peut constituer un dossier de surendettement et auprès de qui peut-on le déposer, Maître Serran?
Alors d'abord, pourquoi effectivement la procédure de surendettement? Parce que ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça. Mais souvent, les personnes qui se retrouvent dans ce type de situation, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous avez beaucoup trop de dépenses par rapport à vos revenus, bah ces personnes s'en rendent pas forcément compte. Il y a eu une grande mode de ce qu'on a appelé les crédits revolving, hein, c'est-à-dire que vous allez auprès
ça,
de voilà auprès de n'importe quel supermarché ou autre ou banque et puis vous avez une carte et vous pouvez prélever de l'argent, payer avec et puis on vous dit que ça se reconstitue au fur et à mesure. Alors sur le principe, oui, ça va se reconstituer, mais ça se reconstitue à partir du moment où vous avez vous-même des fonds. Et quand on en est et on le voit très souvent quand on en est à prendre un crédit pour combler un crédit que vous avez déjà utilisé, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, vous allez être étranglé financièrement. Donc, la loi est quand même bien faite, puisque vous avez la possibilité, encore une fois, quand vous avez conscience de la situation, c'est peut-être ça le plus compliqué pour ces personnes-là, vous avez la possibilité donc de déposer un dossier de surendettement. Alors le dossier de surendettement, c'est la Banque de France hein, qui gère ça et qui va ensuite, une fois que vous aurez rempli votre dossier que vous trouvez hein, sur internet, qui va transmettre le dossier donc à la commission de surendettement. Ce sont des commissions qu'on trouve dans chaque département. Et cette commission de surendettement, elle va faire quoi précisément? Donc elle va examiner l'intégralité de vos dettes, elle va examiner votre situation familiale, elle va examiner votre situation professionnelle et va vérifier si de ce que vous leur dites, si effectivement vous êtes, on va utiliser un terme simple, étranglé financièrement. Alors la commission, à partir du moment où elle considère que votre dossier en droit, on dit, est recevable, c'est à partir du moment où je considère que vous réunissez toutes les conditions et qu'effectivement financièrement vous êtes étranglé, je vais pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Et la première des décisions, c'est cette recevabilité. Dès que la commission dit que votre dossier est recevable, vous allez quand même pouvoir, j'allais presque respirer financièrement, puisque tout se bloque. C'est-à-dire que tous vos créanciers vont être également suspendus par rapport à cette procédure. Si vous avez fait l'objet de saisie sur votre compte bancaire, sur votre salaire, donc tout ça va s'arrêter. Donc on va quand même vous donner un peu d'oxygène.
C'est du répit.
C'est du répit, puisque c'est, encore une fois, enfin, nous on le voit quand vous avez des personnes qui viennent vous consulter, c'est-à-dire que c'est une détresse qui est quotidienne quand vous avez des personnes qui vous disent j'appelle mon établissement bancaire 2, 3, 4 fois par jour simplement pour voir où j'en suis et que vous comprenez que ces appels sont pas pour toutes les banques, c'est pas forcément gratuit, donc voilà, on se dit on est dans un cycle qui n'en finira pas. Donc à partir du moment où la commission donc considère que votre dossier est recevable, donc elle peut vous aider si elle considère que vous êtes quand même, entre guillemets, solvable, mais c'est un problème d'organisation, donc elle va essayer d'établir un petit plan d'appurement, donc pour voir ce que vous pouvez éventuellement rembourser, mais encore une fois, sans vous étrangler financièrement, et cette proposition de la commission peut s'étendre jusqu'à un délai de 2 ans. On peut aussi considérer que c'est, entre guillemets, pardon pour l'expression familière, que c'est plié, c'est-à-dire que vous avez tellement accumulé de dettes que vos revenus sont tellement faibles ou inexistants que de toute manière, on ne pourra rien faire. Et à partir du moment où moi, commission, je considère que votre dossier donc ne peut pas être ramené à niveau et qu'on ne pourra pas, même si on vous saigne, entre guillemets, sur un plan financier, vous ne pourrez pas rembourser vos dettes, alors il y a une option. Et l'option, c'est la commission va considérer que vous êtes insolvable, c'est-à-dire qu'on va considérer que vos dettes vont être effacées. Alors, faut faire attention, parce que souvent, on l'entend, ça, en disant, mais bon, de toute manière...
Il vaut mieux que ce soit effacé.
Alors, voilà, ça, c'est c'est vraiment le raisonnement qu'on entend, en disant, mais maître, est-ce qu'il y a la possibilité de... Alors, on n'efface pas comme ça pour tous les dossiers, pour toutes les situations, ce qu'on peut comprendre. Faut pas oublier que l'argent que vous avez, vous, emprunté, que vous avez dépensé, bah, il y a bien quelqu'un qui vous l'a prêté. Alors, certes, peut-être avec des intérêts, mais on vous l'a prêté. Donc, cet argent n'est pas à vous. Donc, il faut aussi essayer de concilier les intérêts des parties. Bah, vos créanciers sont pas toujours d'accord. Donc, il est certain que quand la commission considère que sur un plan purement financier, on ne peut rien faire et quand elle décide d'annuler vos dettes, il y a quand même une conséquence financière pour tous ceux, les organismes, pour tous ceux qui vous ont prêté cet argent. Mais il y a une notion qui est importante pour qu'éventuellement la commission puisse aller dans ce sens-là, c'est la notion de bonne foi. Il est certain que si on considère que vous n'avez pas fait l'effort matériel ou intellectuel de comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous avez emprunté pour essayer de combler d'autres crédits, et malheureusement c'est souvent comme ça, la commission peut considérer que la bonne foi qui doit en principe vous être reconnue, que la bonne foi ne vous concerne pas, en gros que c'est bien fait pour vous si vous êtes endetté, fallait gérer autrement ou fallait ne pas entre guillemets jouir de l'achat de biens matériels. Et si la bonne foi n'est pas reconnue, les conséquences sont importantes puisque la commission ne va pas effacer vos dettes, donc elle va encore une fois vous accorder un plan d'apurement. Pour toutes les décisions qui sont prises par la commission, il faut savoir que chacun des intervenants peut les contester. Je suis celui qui est endetté, la commission considère que je ne réunis pas les conditions, je peux les contester et contester la décision de la commission et saisir le tribunal d'instance. Je suis un créancier, la commission me dit bah écoutez, on va effacer les dettes de votre débiteur, il y a qu'on le veuille ou non un préjudice pour moi, donc j'aurai le droit, en qualité de créancier, de saisir le tribunal d'instance pour contester la décision de la commission. Et vous avez bien compris que la décision finale reviendra au tribunal d'instance, donc qui pourra soit suivre la décision de la commission, soit éventuellement vous donner gain de cause à vous, personne endettée, ou à vous, créancier. Toujours est-il qu'il faut faire attention. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle effectivement aujourd'hui? Parce que je le vois depuis X années et de manière récurrente. Évidemment que les fêtes sont des moments propices à faire chauffer, comme on dit, la carte bleue. Alors, je peux comprendre qu'on ait envie de se faire plaisir ou de faire plaisir à X ou Y, mais ça reste des plaisirs éphémères. Et n'oubliez pas qu'ensuite, si vous êtes pris à la gorge, il y a une procédure qui est longue, qui est difficile. Il suffit pas de dire que quand la commission est saisie, qu'elle suspend vos dettes, vous êtes quelqu'un de tranquille. Non, vous allez vous serrer fortement la ceinture et évidemment, il y a plein de dépenses que vous ne pourrez pas faire. Et tout votre argent, tout votre budget va être géré non pas par vous, puisque on va vous imposer un tableau à respecter. Donc il faut quand même, et encore une fois, je sais que c'est évidemment facile à dire durant ces périodes un peu fofolles, mais il faut quand même faire attention pour pas vous retrouver dans des situations pas possibles. Et en particulier si vous avez des enfants. On a eu des dossiers où ça commence par des difficultés financières, des difficultés au sein du couple, et puis au bout d'un moment, la justice s'intéresse au sort des enfants, ce qui est légitime et ce qui est normal, mais vous voyez, les conséquences, ça peut être extrêmement lourdes. Donc voilà, n'ayez pas la main trop lourde autant que faire se peut, et pas d'abus sur ces crédits qu'on vous accorde très très facilement. Non, il faut aussi le reconnaître.
C'est plus aussi facile qu'avant. Hein. La loi a bien évolué, Maître Serran, en l'occurrence.
On est d'accord, la loi a bien évolué, mais les mentalités, mais même les maisons de crédit, c'est ça qui est assez particulier. Que le particulier...
Qui poussait à la dépense, il faut dire.
Mais encore une fois, c'est assez pervers. Il est certain que si j'ai tout intérêt à vous pousser à la dépense parce que demain ça me rapporte encore plus, moi ça va être mon boulot, c'est le travail de cet organisme. Donc ils le font de manière entre guillemets un peu plus subtile. Ils le font aussi en agrandissant les caractères dans leurs contrats, puisque des tribunaux ont parfois annulé les contrats en disant attendez, c'était pas suffisamment lisible. Donc c'est vrai que c'est lisible. Pour autant, est-ce qu'ils prennent le temps d'expliquer à ceux qui vont signer les documents les conséquences de ces signatures? C'est pas encore dans les mœurs, mais je dois aussi reconnaître que celui qui signe n'est pas dénué d'intelligence. Faut aussi faire attention à ça. On peut pas non plus déléguer soit aux créanciers, soit aux commissions, en disant bah écoutez, j'ai fait une grosse bêtise, maintenant venez m'aider. Faut aussi faire un effort sur soi. C'est ce qu'on appelle la bonne foi. Tout simplement.
Dans un instant, vous posez toutes vos questions juridiques à Maître Serran. Je vous rappelle que le standard de Beurre FM est à votre disposition. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Si vous ne souhaitez pas passer en direct et si vous voulez appeler Maître Serran en privé, comme on dit, vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable après l'émission.
En privé et professionnel, évidemment.
Bien sûr,
faut le préciser. 06 et 62 58 59 64. 06 et 62 58 59 64.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. Nous avons Amine qui est avec nous, Maître Serran. Amine, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour Maître Serran, bonjour Philippe. Voilà, j'ai une question à vous poser. Je vous explique, j'ai acheté une voiture il y a 2 ans et demi chez un professionnel. La voiture présentait des vis cachées. Mon assurance a pris en charge, enfin l'expert et tout ça, donc ça a été prouvé qu'il y avait plusieurs vices cachés. Le professionnel, le concessionnaire n'a jamais, ne s'est jamais manifesté, hein, c'est-à-dire qu'il n'est jamais venu au rendez-vous avec l'expert. C'est passé en jugement. J'ai gagné le procès, mais le concessionnaire n'avait jamais pris les plis du tribunal. À ce jour-là, la voiture est toujours chez moi. Il n'est jamais venu la récupérer. Comment ça s'appelle ? Au niveau juridique, j'ai été payé que 1000 euros par les personnes enfin qui ont saisi son compte.
Mais la décision a dit quoi sur le véhicule lui-même ? Il y a une obligation de réparation ? Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Non, qu'il devait reprendre le véhicule.
Ah, il devait récupérer le véhicule et vous rembourser ?
Oui.
D'accord. Et lorsque le l'huissier de justice a fait signifier la décision. Alors, il faut savoir que quand un jugement est rendu, quelle que soit la juridiction, pour que cette décision puisse être exécutoire, c'est-à-dire pour qu'on puisse appliquer ce qui est demandé par le juge, il y a ce qu'on appelle la signification, c'est un huissier qui débarque à votre demande ou à la demande de votre compagnie d'assurance, donc chez ce garagiste indélicat, et à partir de ce moment-là, il doit exécuter la décision. Donc là, vous me dites que manifestement, le type se manifeste pas de son côté. Voilà, il ne reprend pas le véhicule.
Non, le jour où l'huissier est parti, il n'était pas là-bas. Il n'a jamais pris le pli. Il a vu le nom, il n'a jamais pris le pli.
Vous avez vérifié sur Infogreffe, société.com, peu importe, ce qui se dit sur cette société, c'est quoi ? C'est une succursale ? C'est un indépendant ? C'est un concessionnaire connu ?
C'est un indépendant, c'est un concessionnaire qui achète des voitures qui sont HS.
Ouais. C'est un business assez lucratif en la matière, puisque il n'y a pas beaucoup de personnes qui, comme vous, décident de saisir le tribunal et d'aller jusqu'au bout. Maintenant, monsieur, à partir du moment où vous avez une décision à part, même, et je crois comprendre votre déception, comme vous me dites, il y a des saisies a priori donc sur le compte de ce garage qui sont effectués, mais vous ne pourrez pas le contraindre, vous avez bien compris, entre guillemets, physiquement. Vous avez une décision, il y a un huissier, c'est le rôle de l'huissier de faire le nécessaire, mais à votre niveau, vous avez tout fait. En plus, a priori, ce monsieur n'a pas, enfin, ou ce garagiste n'a pas contesté la décision dans le temps qui lui est imparti. Votre jugement est définitif. Donc vous êtes sur la voie entre guillemets simplement de l'exécution. Alors ça peut être frustrant, puisque souvent même les clients pensent que dès qu'on a un jugement rédigé noir sur blanc, bah forcément la partie adverse va appliquer ce jugement. Bon, on a des personnes qui sont indécrottables et de mauvaise foi. Donc ça se fera sur, a priori, des saisies sur le compte de la société. Mais je crains qu'il puisse y avoir une difficulté sur la reprise totale du véhicule. Oui. Quand vous y allez, le garage existe toujours ?
Le garage...
Quand vous passez devant, si tant est que vous passiez devant ?
Non, je ne passe pas devant, mais le garage existe toujours, ils vendent toujours des voitures.
D'accord, ils continuent. Bah oui, c'est... Alors c'est terrible ce que je vais vous dire et parfois ça peut même, pardon pour le terme un peu fort, dégoûter de la justice. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont condamnées et on a l'impression qu'elles sont imperméables à toute condamnation et elles continuent d'exercer et puis éventuellement d'escroquer, sans généraliser évidemment, d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est assez pénible à percevoir et à se dire à quoi peut bien servir parfois une belle décision de justice.
Oui. Alors ma question, en fait, je voudrais me débarrasser de cette voiture. Donc j'ai fait une lettre au tribunal. Donc on m'a dit que c'était il n'avait pas de réponse. L'huissier m'avait dit d'aller voir la gendarmerie m'a dit mais nous on n'est pas on peut pas il y a eu une décision de justice, on ne peut rien faire, hein, on ne peut pas prendre la voiture et
non mais ce qui est vrai, mais vous avez bien compris que ouais, allez-y.
Qu'est-ce que je dois faire du véhicule parce que je veux l'emmener à la casse parce que comme le moteur est haché, je veux pas rouler.
Non mais ça, je peux comprendre. Il est certain que d'abord, ça va être difficile entre guillemets. Alors quand vous me dites débarrasser du véhicule, c'est soit débarrasser ce que je vais pouvoir la revendre à quelqu'un, mais vous allez vous retrouver vous-même dans la même situation, à moins de dire, écoutez, ce véhicule est HS, mais est-ce que vous le reprenez, je sais pas moi, pour pièce ou autre, ou c'est débarrasser, est-ce que je le mets à la casse. Donc là, il y a rien qui vous interdit de faire ce type de démarche, mais vous avez bien compris que s'il y avait l'obligation pour ce garagiste indélicat de reprendre le véhicule matériellement parlant et de vous rembourser à partir du moment où le véhicule n'existe plus ou serait amené à ne plus exister, votre belle décision pourra pas s'appliquer. Mais je peux comprendre que le mais alors en principe, puisque je vous m'avez indiqué que c'est votre compagnie d'assurance non qui a fait appel à son expert.
Oui, mais moi j'ai payé l'avocat. Hein.
Ah, alors j'allais vous dire le alors sauf si vous avez pas cette disposition dans votre contrat d'assurance, mais dans ce type de litige, voilà, les frais d'avocat, alors c'est plafonné hein, pour l'assurance, vous pouvez rajouter un reliquat, mais
J'avais rajouté un.
Ouais, voilà. Donc voilà, vous n'avez pas payé l'intégralité des frais de l'avocat. Bon, voilà, c'est ce que je voulais entendre parce que la compagnie d'assurance prend en charge quand même une partie des frais. Elle prend en charge évidemment les frais d'expertise, mais et les frais d'exécution. C'est-à-dire que pour que ce jugement, ce beau jugement que vous avez du mal à faire exécuter, ça coûte aussi des sous de s'adresser à l'huissier de justice. Tous ces frais-là sont pris en charge par votre compagnie d'assurance, mais encore une fois, monsieur, il n'y a pas, malgré le fait que vous soyez de bonne foi, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que si le type en face, malgré la décision, dit moi je m'en fous, c'est comme ça et pas autrement, le tête-à-tête, ça va être entre l'huissier de justice et ce garagiste. Mais vous, au moment où on se parle, en tout cas, il me semble que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce long parcours.
Parce que moi, la police m'a dit, enfin, je suis parti voir la police m'a dit, il ne s'est pas manifesté, ils m'ont dit, bon, de vive voix, ils m'ont dit, mettez-la à la casse, et voilà, de toute façon, il ne viendra jamais.
Oui, alors, évidemment, c'est entre guillemets la solution facile, mais ça reste encore une solution injuste. À partir du moment où vous avez une juridiction qui vous donne raison en vous disant il va reprendre le véhicule et puis il va vous rembourser, c'est difficile de s'entendre dire le type en face est de telle mauvaise foi que moi le véhicule, en gros, je vais dépenser de l'argent pour m'en débarrasser. Mais la finalité risque d'être ça. Ouais, c'est toute la difficulté, malgré votre belle décision. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, sauf si vous lâchez pas le tête-à-tête avec ce garagiste, mais la finalité, parfois, dans ce type de dossier, c'est malheureusement ça. C'est-à-dire que le type a bataillé, il a pris un avocat, il a réglé des frais, et puis la belle décision, à part l'encadrer, on peut pas l'exécuter concrètement. Donc voilà, j'allais dire soyez pas déçus, mais ça pourrait être l'une des finalités. La justice n'est pas toujours juste, mais là elle l'a été, et parfois c'est l'exécution de la décision qui est quasi impossible.
Et c'est-à-dire que là, je ne peux pas. Au jour d'aujourd'hui, je dois attendre, puisque je paye toujours une assurance, hein. Même si elle est minime, parce que la voiture est dans...
Oui, il y a quand même une obligation, effectivement. Voilà, il y a quand même une obligation, à partir du moment où vous avez un véhicule, d'avoir une assurance, même si le véhicule, vous ne sortez pas du garage. Donc c'est vrai que c'est obligatoire. Mais encore une fois, j'ai pas envie de vous faire croire que la situation va s'améliorer. Elle risque, encore une fois, que de s'empirer. C'est-à-dire que vous avez fait les voies d'exécution. Vous avez été au maximum pour l'instant de ce que vous pouviez faire.
Oui. Donc du coup, je me retrouve avec une voiture
ouais,
et ça, je dois attendre.
Ça risque effectivement d'être ça. Et, alors je comprends à votre déception.
Et dans le cas où, c'est-à-dire si je découvre que la société a mis la clé sous la porte.
Bah, ça pourrait être considéré encore une fois comme une escroquerie. C'est-à-dire que si le type. Mais comprenez bien, il faudrait quasi démontrer que la société a mis la clé sous la porte juste pour éviter, en gros, ce litige avec vous ou pour éviter une exécution de la décision. Après, les coïncidences parfois font que la société peut mettre la clé sous la porte, mais en raison, on va dire, d'autres considérations, et en gros que c'était plié d'avance. Donc, y a rien d'évident. Alors, si c'est le cas, vous pouvez déposer une plainte. Est-ce que la plainte va aboutir dans le sens où ce garagiste a fait exprès de déposer le bilan pour pas indemniser Monsieur X? Ça reste quand même assez difficile à établir avec certitude.
Oui.
Et en règle générale, ceux qui sont tordus comme ça, ils ont également de bons avocats et de bons conseils. Hein. C'est parfois aussi notre boulot que de raisonner de manière tordue.
Oui, mais...
Ouais, je sais bien.
En fait, il n'a jamais... Voilà.
Je sais bien, mais même malheureusement, on peut... Enfin,
même la décision du tribunal, le pli était revenu, donc il n'a jamais... récupérer aucun, c'est-à-dire
que
c'est comme s'il savait pas ce qui s'était passé.
Non, mais il le sait, si c'est signifié, vous avez fait votre boulot, mais après, on peut pas, entre guillemets, manu militari, c'est-à-dire prendre le type à la gorge et lui dire, je vais t'apprendre à lire ma décision. Donc, parfois, même quand on a une belle décision, on peut être déçu. Et là, ça me semble être le cas. Donc, je vois pas un brin de soleil qui pourrait égayer votre journée, malheureusement. Et ça arrive même quand on a des décisions rendues en faveur du client.
Voilà, qui sont favorables. Merci, Amine, pour votre question. Alors, d'autres appels dans un instant. Si vous avez une question à poser à Maître Serhan, vous pourrez le faire en direct. Vous pouvez également envoyer un mail à Maître Serhan, si vous le souhaitez.
Bien sûr, maître.serhan, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Voilà, et notez que tout à l'heure, c'est l'Islam au présent et Ismaël Mounir qui sera avec nous entre 10h et 11h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, le vendredi, c'est Maître Serhan qui consulte et qui répond vos questions au 01 53 48 3000. Radija est à Toulouse, Maître Serhan. Radija, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Radija.
Bonjour Radija.
Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez là?
Oui, parfaitement.
Oui,
allez-y.
Je vous dis bonjour et je voudrais poser une question à Maître Serhan.
Allez-y, Radija, je vous écoute.
Ben, en fait, moi, je suis d'origine algérienne. J'étais française, bien sûr, indigène quand j'étais née. Et j'ai réintégré ma nationalité française. Et d'une première union, j'ai un fils. J'ai eu un fils d'une première union et deux fils d'une deuxième union. Et je voudrais demander éventuellement la nationalité française à mon fils qui, quand moi j'ai eu la nationalité, lui il était déjà majeur.
D'accord, bon, bah,
Et mes deux autres fils sont ouais. Français, mon mari aussi, et puis voilà.
D'accord, ok. Donc votre premier mari, lui, n'était pas de nationalité française.
Non.
Donc, alors, il n'y a pas de transmission de la nationalité. Or, quand c'est comme ça, encore une fois, à partir du moment où vous pouvez justifier que l'un des parents est français, alors soit français depuis toujours, soit français par naturalisation, soit français par réintégration, l'administration prend cet élément en considération. Alors ça veut pas dire que forcément 100% va lui dire oui, ok, il y a pas de difficulté, mais vous avez bien compris que si vous avez été réintégré dans la nationalité française, votre enfant, donc qui mettra aussi cet élément là en avant, donc sera entre guillemets bien vu par l'administration. Donc c'est pas une situation inquiétante. Quand on a été réintégré dans la nationalité française. Allô,
oui.
Allô?
Oui. Oui, j'ai compris, mais il va falloir que je fasse une demande, mais à qui? Et j'ai aucune adresse pour pouvoir écrire.
Ça relève toujours de la préfecture du lieu de domicile. Hein. Donc je ne sais pas où habite votre fils, et puis il dépose un dossier qu'il peut télécharger sur tous les sites maintenant de la préfecture. Alors vous verrez, il y a une tonne de papiers à réunir, et puis il devrait avoir un retour entre guillemets concret. Alors il faut pas s'impatienter, mais les autorités préfectorales pourraient lui apporter un début de retour, on va dire, dans un délai d'un an, parfois un an et demi. Donc le délai est long, mais c'est normal en la matière. Mais le dossier, il le télécharge sur le site de la préfecture de son lieu de domicile.
Son lieu de domicile, en Algérie, il n'habite pas en France.
Alors dans ce cas-là, c'est les services consulaires.
D'Algérie ?
Si on est en Algérie, donc on va éviter de s'adresser aux autorités algériennes, les services consulaires français d'Algérie, voilà.
D'Alger ou d'Oran, parce qu'il habite à Mostaganem.
Après, je sais pas, madame, c'est en fonction de... Non, alors là, je vais vous dire des bêtises, c'est-à-dire que c'est sectorisé, hein, comme sur le territoire français. J'imagine que sur le site internet, on va lui donner la précision, mais voilà, donc il faut savoir que pour toutes les personnes qui demeurent en Algérie, l'autorité administrative de droit, c'est évidemment l'autorité consulaire française, quand il s'agit de démarches évidemment auprès des autorités consulaires françaises. Donc il s'adresse aux intéressés. La seule exception, on va dire, en la matière, c'est lorsqu'une personne qui habite à l'étranger demande un certificat de nationalité française. Dans ce cas-là, on s'adresse au service de la nationalité qui se trouve à Paris, d'ailleurs, qui est domicilié auprès du tribunal de grande instance de Paris. Mais sinon, pour toutes les autres procédures, votre interlocuteur privilégié, c'est toujours le consulat.
D'accord. Mais il connaît pas, il faut la chercher. L'adresse.
Non, bah oui, votre fils connaît Internet?
Sûrement, oui.
Alors, vous m'inquiétez. Posez-lui la question. Mais il tape consulat français et en fonction de. Enfin, il met sa ville et on va lui donner pile poil. Mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises là comme ça.
Non, maître, c'est pas par rapport à ça, mais par rapport au tribunal de Paris dont vous venez d'en parler. On n'a pas cette adresse-là, si c'était possible.
Ah, alors là, c'est le tribunal de grande instance, encore une fois, de Paris, mais même chose, Internet répond à toutes les questions. S'il met tribunal de grande instance de Paris, on va lui donner pile-poil l'adresse du service de la nationalité.
D'accord.
Pour demander un certificat de nationalité française. Alors, c'est pas la même procédure. C'est-à-dire que il pourrait considérer, en se disant, puisque ma mère a été réintégrée, qu'elle est française, de facto, je vais l'être. Et je vais donc demander un certificat de nationalité française, mais ça va pas être le bon service. Ça, c'était juste à titre d'exemple pour vous dire qu'en dehors de cette administration-là, tout ce qui concerne les démarches quand on est au pays relève de la compétence du consulat français.
Oui, j'ai tout compris.
Voilà, impeccable.
Si vous permettez, une autre petite question. En fait, le jour où on nous a remis les livrets de famille et la certificat de nationalité à la préfecture, on m'a donné un livret de famille concernant ce fils-là. Est-ce que j'en fais une copie? Ça peut jouer quelque chose ou pas?
Ah oui, mais bien sûr. Tous les éléments de cette nature sont à communiquer. Bien sûr, bien sûr. Vous en faites une copie et puis vous remettez ça à votre fils pour qu'il complète son dossier. Mais évidemment, bien sûr.
D'accord. Je vous dis un grand merci et bonne journée, monsieur.
Merci à vous pour votre appel.
Gros bisous, Radija. À bientôt. Alors, on a Amina qui est avec nous. Amina, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Allô ?
Oui, bonjour Amina.
Oui, bonjour maître.
Bonjour Amina.
Bonjour Philippe. Moi je vais vous poser une question concernant le sujet de ce matin. J'ai prêté de l'argent à de la famille.
Oui.
Ça fait quelques années, donc c'était mon ex-beau-frère, il m'a fait des chèques, bien sûr à l'époque c'était des chèques en francs. Donc il voulait pas du tout me rembourser, j'avais fait une petite procédure, le jour qu'on est passé devant au tribunal, quand le juge a appelé mon nom, ma sœur m'a retenue. Elle m'a dit n'y va pas parce qu'il y a des enfants, nanana. Bon, après, une fois qu'on est passé devant le juge, bien sûr, le juge, il a dit, puisqu'il n'y a personne, donc tout était tombé à l'eau, je pense. Quand il est sorti du tribunal, mon ex-beau-frère, il m'a dit, maintenant, tu peux, excusez-moi le terme, te torcher avec. ça fait des années que j'ai ces chèques là. Je ne sais pas du tout est-ce que
Il parlait des chèques?
Oui.
D'accord, voilà. Je pensais qu'il parlait de la décision.
Non, les chèques. Je ne sais pas du tout est-ce que je peux, au bout de certaines années, est-ce que je peux encore redéposer.
Non, enfin, vous avez bien. En plus, si vous me dites que les chèques étaient en francs.
Non, mais les chèques ont des durées de validité.
Voilà, d'une année. Mais en francs.
Je crois que c'est 6 mois,
d'ailleurs. Francs anciens. Non, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une audience.
Oui.
Est-ce que le magistrat a rendu une décision ou ça ne s'est pas fait, vous ne vous êtes pas levé, vous n'avez pas donné suite?
Il a rendu la décision.
Qui dit quoi?
Il dit comme quoi il n'était pas recevable, donc c'était fini. Hein, c'est...
Non, mais recevable, c'est un terme précis en droit. Quand il dit ça, je ne comprends pas. Est-ce que le juge, il dit, monsieur, il faut rembourser madame, ou le juge vous dit, madame, pour des raisons X ou Y, monsieur n'a pas à vous rembourser?
Malheureusement, il en avait tellement de créanciers, je ne sais plus du tout ce qu'il a fait, parce que ça fait longtemps que cette affaire, on était passé devant le tribunal, je ne me rappelle plus.
D'accord.
Donc, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il est sorti, il a remboursé personne. Voilà.
Non, mais alors, je vais reposer ma question. C'est-à-dire, on peut ne rembourser personne en étant de mauvaise foi. C'est-à-dire, il y a un jugement qui dit, vous allez rembourser madame ou monsieur, et puis le type s'en fout. Mais le juge a peut-être, sous toute réserve, rendu une décision, il faudra en prendre connaissance en fait, rendu une décision qui dit, non madame, je considère que vous n'avez pas de créance, c'est-à-dire que monsieur ne doit pas vous rembourser quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est pas la même chose.
Ah oui, d'accord. Oui, il faudrait que je...
Parce que si le tribunal dit en gros que pour des raisons de fond, de forme, peu importe, que monsieur n'y est pour rien et donc qu'il n'y a pas lieu à remboursement, les chèques que vous avez, vous pouvez éventuellement faire ce qui a été proposé par monsieur, si vous voyez ce que je veux dire. Si la décision condamne l'intéressé, c'est autre chose. Donc, mais il faut à minima lire le jugement.
D'accord. Ok, et dans tous les cas, parce que non, je sais pas, c'est avec un ami, on discutait l'autre fois, il m'a dit si t'as le droit de 10 sur 10, ça veut dire tous les 10 ans, je sais pas ce qu'il m'a expliqué.
Non, c'est n'importe quoi, ça c'est du bricolage. C'est pas tous les 10 ans, c'est comme dans tout, il y a des délais de prescription, il y a des délais particuliers. Et heureusement, on peut pas laisser une affaire suspendue comme ça pendant des siècles. Là, ce qui me fait peur, c'est que vous me dites que vos chèques, à l'époque, étaient en francs. On est passé à l'euro il y a quand même quelques années. C'est pas certain que vous soyez, et c'est même peu probable, dans le timing pour faire exécuter la décision. Sous réserve que le juge ait bien condamné ce monsieur.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais d'après, je me suis dit, si je rouvre pas encore une plainte.
Madame, il n'y a pas de plainte à rouvrir ou pas. Voilà, le juge rend une décision. Vous devez la faire exécuter. Il y a un timing pour la faire exécuter en fonction des affaires. Si vous êtes diligente, comme on dit, c'est-à-dire si vous le faites, banco, il n'y a pas de difficulté, il peut y avoir des saisies ou autres. Mais celui qui obtient une belle décision et qui dort sur sa belle décision sans demander à un huissier d'intervenir, il se passera rien et sa décision, encore une fois, à part l'encadrer et la lire de temps en temps, ne servira pas à récupérer l'argent.
C'est sûr, mais c'est vrai que quelque part, j'ai conclu maintenant, c'est terminé. Il faut jamais prêter à la famille, surtout la famille.
Ou alors il faut donner, parce que sinon, si vous attendez qu'on vous
donner.
Parce que si vous attendez qu'on vous rende votre argent, ça pollue les relations et puis votre argent, vous le renvoyez jamais.
Vous savez, après,
c'est la guerre, donc c'est terminé là.
Il y a des situations, madame, où on prête à la famille, mais ça peut être de manière formelle. C'est-à-dire, vous pouvez signer une reconnaissance de dette. Alors, je sais que culturellement, entre guillemets, j'allais dire chez nous, on voit pas tellement ce genre de choses, mais ça peut être un tort. On peut formaliser les choses de manière carrée. Vous prêtez votre argent et on prévoit un remboursement dans un délai déterminé. Et dans l'hypothèse où ça ne se fait pas, alors après, on a le contentieux. Alors je peux comprendre que c'est délicat, difficile de se retourner contre un membre de la famille ou un ex-membre de la famille. Mais voilà, après, faut savoir ce qu'on veut. On court le risque.
Risque. Là, c'est fini.
Je peux comprendre.
Mais au final, vous avez perdu votre argent et vous avez perdu votre famille, vous voyez.
J'ai perdu mon argent. J'ai le souvenir de chèques en francs, là, que je regarde.
C'est, ouais.
Bah, ça reste un souvenir quand même, puisque des chèques en francs, il n'y en a plus tant que ça. Non. Donc, voilà. C'est comme les monopolies en francs, on n'en trouve plus dans le commerce.
C'est comme l'emprunt russe. Ouais,
exactement. Non, mais je crois au niveau de l'exécution de la décision, je crois malheureusement il va falloir passer à autre chose.
Oui, là, faut tourner la page, c'est terminé. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à les jeter, ces chèques. Donc ça,
non, mais gardez-les, pourquoi vous voulez les jeter? Vous pouvez les conserver.
Oui, bah oui, tiens, et la haine, elle est là. Donc je vais les conserver à chaque fois, ça va me remuer.
Ouais,
donc c'est vrai que c'est, oui. Bon, bah bref, c'est pas grave. Donc puis pour l'argent, ça va.
Ouais, mais la haine, il faut pas garder la haine.
Non, bah, sinon, non, écoutez, là,
quitte à avoir perdu son argent, autant faire la paix, vous voyez.
Non, oui, voilà, parce que moi, c'était, je pensais à mes neveux et mes nièces, mais si c'était que lui tout seul, j'aurais été jusqu'au bout, hein, ce jour-là.
Ouais, mais bon, il faut aussi, encore une fois, passer l'éponge et puis pardonner. C'est aussi, la grandeur de notre cœur et de notre esprit.
Ceci dit, Maître Serran vous a donné une utilisation, hein.
Oui, on peut l'utiliser.
On ne sait jamais en cas de pénurie ici à la grève qui dure.
Ouais, faut pas hésiter à dérouler le chèque. Et bon,
ah bah oui,
voilà. Bon, en tout cas, ça nous fait rire. On aura au moins gagné ça.
Ouais.
Voilà. Eh ben voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Amina. Ceci dit, prêter de l'argent à des amis ou de la famille, vous croyez aider les gens et c'est jamais ce qui se passe.
Non, c'est toujours problématique.
Ça se retourne toujours contre vous, en fait.
Ouais, mais c'est vrai.
C'est un truc de fou.
Ah oui, parce que vous avez jamais le beau rôle.
Vous dépannez quelqu'un et bim.
Ouais, vous avez jamais le beau rôle. Ouais. Mais sinon, après l'émission, mon argent, vous allez me le rendre ou pas?
Lequel? Parce que là, il faut que je parle duquel, Maître Serran.
C'est vrai.
Vous êtes tellement généreux.
Ouais, en tout cas, pas vous, puisque vous me remboursez pas.
Non, je sais, mais j'ai pas eu mon enveloppe.
Non, mais
Maître Serran.
Vous me payez en chocolat. Donc,
ah oui,
là, c'est moi qui joue l'argent.
Alors là, je veux dire, sur toutes les années, on part en vacances.
Ça fait un budget, je suis d'accord.
C'est un donné, un renversé.
Pardon pour ce que j'ai dit.
C'est happy hour.
C'est vrai.
Ceci dit, ce matin, il y a une charmante secrétaire qui est venue nous apporter un café, on n'a rien demandé. Hein. Voilà. C'est à mon avis, c'est parce qu'il y a Ismaël Mounir qui est là. Donc, c'était pour lui faire plaisir.
Il a de l'influence.
Hein?
Ouais, je sais, il a de l'influence.
Au niveau du chocolat, ouais.
Hein?
Tiens, on va lui donner la parole, on va lui ouvrir le micro, puisqu'il nous reste 3 minutes.
3 minutes de pur bonheur.
Tiens, vous grattez 3 minutes à mettre Serran.
Ouais.
Je l'écoutais en plus dans la voiture avec ses bouteilles de vin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire encore, moi?
Justement, il y a d'abord le chétan qui parle et ensuite, hop, on apaise les esprits. Et après, on parle religion.
Il y a toujours des histoires comme ça, Maître Serral, c'est incroyable.
Mais c'est vrai.
Mais je sais que c'est vrai.
C'est ça.
Ah non, mais le truc, c'est ça, c'est que, comme dirait l'autre, Mais c'est la vie de tous les jours, il suffit d'être un petit peu attentif et effectivement, vous pouvez animer des soirées entières.
Voilà, Ismaël Mounir, est-ce que vous avez déjà fait une vidéo sur le fait de prêter de l'argent à des gens de la famille?
Non, jamais fait ça. Mais bon, par contre, j'ai eu beaucoup de questions dans les mosquées, de problèmes d'argent, j'ai prêté de l'argent à mon oncle, j'ai ceci, j'ai cela.
C'est
effectivement,
la vie. C'est la vie.
C'est souvent très problématique les histoires d'argent au sein de la famille. Je pense même en plus beaucoup chez les Maghrébins, j'ai l'impression.
Plus, parce qu'on parlait du côté culturel.
J'ai l'impression, on a honte de redemander.
C'est exactement ça.
Il y a des gens qui abusent.
Non, mais bien sûr.
Ouais, une position d'autorité, parfois, même les parents. Donc, c'est très compliqué.
C'est vrai, encore une fois, vous faites plaisir, vous aidez, vous dépannez, vous vous retrouvez dans la position de celui qui est obligé de demander après.
Il faut rappeler des principes, c'est le principe d'honnêteté, de sincérité aussi. Donc, moi, j'ai déjà vu même des histoires où des gens ont prêté de l'argent qu'ils n'avaient pas, en fait. C'est le truc par excellence.
Je crois que ça, c'est encore pire.
Ils ont prêté de l'argent qu'ils n'avaient pas à des gens qui n'avaient pas besoin d'argent. Donc là, c'est le truc...
voilà. Bravo pour celui qui a récupéré l'argent, quand même. Il faut être un artiste pour faire ça.
Voilà. Et il y a une histoire dans le Coran, d'ailleurs. C'est l'histoire de Qaroun. Qaroun, il fait partie des enfants d'Israël. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander de l'argent à tout le monde. Et une fois que tout le monde lui prête de l'argent, il crée un commerce. Et en fait, il augmente les prix. Il crée un monopole. Il n'y a que lui qui a de la farine. Et il augmente les prix. Et les gens viennent le voir. Mais on t'a prêté de l'argent quand même. Mais moi, j'ai des frais. Et donc, du coup, il retourne le truc.
Ben voilà.
Business is business.
Ah ouais.
Bon, Maître Serran, on vous retrouve vendredi prochain. Entre-temps, vous pouvez composer le numéro de téléphone de Maître Serran qui s'affiche.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et dans un instant, Ismaël Mounir est avec nous pour l'islam au présent. On parlera notamment des écoles juridiques. À tout de suite.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.